Vous êtes sur 106.8, Radio Grand Ciel, Pays de Chartres, du côté de la Pointe aux Âmes. Une émission écrite et présentée par Robert Giroux. À la prise de son, Simon Martin. Ravi de vous retrouver pour une demi-heure au son du luth aujourd'hui. Je ne vous en dis pas davantage. J'espère trouver chacune et chacun de vous en la meilleure des formes et prêt à appareiller. Mais d'abord et avant toute chose, un grand bonjour à vous. L'affaire commence dans les environs directs du campus de l'université d'Harvard. Notre jeune apprenti guitariste, l'esprit tout à sa thèse, dont l'exposé s'approche à grandes enjambées, est sorti faire quelques pas, peut-être chercher un peu d'air frais du côté ombragé de la rue tranquille de ce quartier résidentiel jouxtant l'université. Comme ceux qui nous paraissent distraits, absorbés par leurs pensées, il est en fait un observateur scrupuleux, précis de tout ce qui l'entoure. Il observe donc le ciel, les rues, les maisons, les jardins, les fenêtres. Une fenêtre. C'est une fenêtre qui lui montrera ce jour précis le dessin de son avenir, les formes que pourrait prendre ce qu'il est en train d'ébaucher, de tenter de porter au jour. Suspendu à un mur, il y voit des instruments de musique, de la famille de la viole de gambe, et le jeune guitariste qu'il est se trouve infiniment ému devant la beauté, l'audace, la richesse d'ouvrage et d'ornementation des instruments silencieux. La fenêtre se trouvait être, en fait, celle d'une enseignante d'Harvard, que le jeune homme invitera tout de suite au concert qu'il donne le soir même sur le campus. À la fin du concert, la professeure viendra le voir et lui dira ceci: « Si c'est cette musique que tu veux jouer, alors tu dois jouer du luth. » Ce fut un émoi esthétique, visuel d'abord, un peu celui d'un jeune architecte courant la campagne et découvrant au détour d'un sentier une petite chapelle romane. Il sait ce que sont lignes, volumes, proportions, mais il les découvre enfin, les tient dans son regard, presque les entendrait chanter. « Architecte. » Le mot est lancé. Il semblerait que l'on ne soit pas pour rien le fils de George Everard Kidder Smith, père du jeune homme, grand architecte et historien de son art. Il avait entre autres initié le sauvetage puis la restauration d'ouvrages de Frank Lloyd Wright. Et c'est lui encore, il faut nous en souvenir, qui saura convaincre André Malraux, alors ministre du général de Gaulle, de restaurer la Villa Savoie de Le Corbusier. Aujourd'hui, il semblerait que beaucoup des admirateurs de son fils, de sa musique, soient sous une espèce de charme complexe à définir, et j'avoue bien volontiers être au rang de cela. Mystère dans ce qui nous atteint, dans l'intensité du trouble ressenti. Toutefois, une chose m'apparaît nettement, le dessin de la phrase, la ligne, le trait, les formes. Aux outils du langage musical habituel, telle la tablature, Hopkinson-Smith ajoute le trait vif, filant droit au point névralgique, le trait parfait de l'architecte, en suspens quand il faut, décisif quand il faut. J'ai eu la chance d'être dans les premiers auditeurs des transcriptions qu'il fit de la musique pour le violoncelle seul de Jean-Sébastien Bach. Et s'il est un monstre architecte dans la musique, c'est sans doute aucun Jean-Sébastien Bach. Je ne saurais trop dire pourquoi, mais il me revient aujourd'hui un joli mot d'Yves Saint-Laurent, le très célèbre couturier, à propos de Bach. On sait que la vie d'Yves Saint-Laurent ne fut qu'une longue et constante dépression. Mais il a dit ceci un jour: « Bach est celui qui peut me relever de tout, et il est le seul. C'est ici la musique dans la peau, la musique à l'épreuve du mal, la musique en mission. » Par la dépression, vous n'avez plus ni soubassement ni charpente qui vous tienne, vous protège. Tout s'est écroulé. Or, la musique de Jean-Sébastien Bach possède une qualité que lui reconnaissent même ceux qui la rejettent, et il y en a. Cette qualité, c'est la construction, l'édifice, le plan d'architecte, cet incroyable niveau de structure, l'invraisemblable degré de symétrie, la convertibilité de chaque élément, tout porte et tout est porté. Prenez le plus simple de Bach, c'est toujours un plan de cathédrale. Je me souviens précisément de la modestie dont Hopkinson Smith faisait montre aux premières de ses transcriptions, qu'il introduisait d'un bref discours plein d'admirative émotion face au corpus titanesque de l'œuvre de Jean-Sébastien Bach. Hopkinson Smith ici ne manquait d'aucune confiance en lui-même et en son travail, mais prenez tout simplement la juste mesure de ce qui peut vous échoir lorsque vous allez au-devant d'une telle ombre. Il s'en est suivi un concert tout en intériorité et en offrande de soi. Hopkinson Smith nous révéla bien des sentiments inédits. Tout un art d'instiller le pur délice en suspendant la phrase et sut aussi nous éclairer d'autres courbes que celles que nous avait fait aimer le violoncelle. On sait que le luth était toujours présent à l'esprit de Bach. Même lorsqu'il s'adressait au violoncelle, la récente et splendide interprétation des suites par Ophélie Gaillard, par exemple, éclaire tout cela avec beaucoup de justesse. Peut-on pour autant parler de transcription ? Ça n'est peut-être pas le meilleur terme. Une transcription considère d'abord les instruments, l'instrument originel, puis celui auquel se destine la transcription. Hopkinson Smith, lui, a considéré la musique elle-même. Elle lui a donné vie sur le luth et selon les seules règles et obligations du luth, selon son caractère, ses constantes et sa jouabilité propre. Un peu comme un traducteur qui traduirait de l'anglais au français. D'abord le français littéral, pour le sens purement, puis un français qui puisse donner la teneur, l'intensité, la poésie du texte. Je me souviens ici d'une mise en scène de Philippe Adrien du Marchand de Venise de Shakespeare, qui m'avait laissé sur des considérations assez proches. Et quelle force incroyable peut dégager une œuvre majeure lorsqu'elle entre en vibration avec notre présent, lorsqu'elle échange avec lui et consente à livrer témoignage qu'elle vit toujours, qu'elle est réalité effective et non plus seulement un acquis glorieux. Bach était ce soir-là directement confronté au regard d'un contemporain, à la réalité de son interprétation, ainsi qu'à la réalité de notre rapport avec sa musique. Ne tardons pas plus. Jean-Sébastien Bach, par Hopkinson Smith. Thank you. Le luth donc, mais aussi la guitare baroque, la vihuela de mano et le théorbe. Partout, Hopkinson Smith fait montre d'une science extrême, pointilliste. La rhétorique qu'il y développe transcende les timbres, les singularités, les voix particulières à chacun. Aussi le sens du phrasé, de la nuance, de la découpe et du temps. Tellement que passant d'un instrument à l'autre, nous changeons d'univers plus que de sonorité. Écoutons, si vous le voulez bien, Hopkinson Smith à la vihuela de mano, à la guitare Renaissance, puis au théorbe. Soit par ordre d'apparition à l'écran, Narvaez, Mudar et Robert de Vizé. Hopkinson Smith aura pour mentor Eugène Dombois d'abord, puis Emilio Pujol. Pujol est une statue du commandeur pour quiconque aime la guitare. Il a été formé par Tárrega, autant dire à la source première de la guitare classique. Francisco Tárrega, auteur des immortels Recuerdos de la Alhambra, Lágrima, Capriccio arabe, sans oublier son beau cahier de préludes. Il est aussi important de parler transcription de la musique romantique, comme la romance sans parole de Mendelssohn, qu'a popularisé Andrés Segovia, disciple sinon fut de Tárrega. Nous parlons ici de la grande histoire. Pujol sera aussi le premier à transcrire la musique ancienne pour le luth et la vihuela, à en fixer l'interprétation et à la produire au concert. Il fera publier ses transcriptions, comme aussi d'importants volumes pédagogiques, en lesquels il serait plus juste de voir une philosophie de la guitare qu'à proprement parler une méthode. Pujol a été et demeure l'un des socles essentiels de l'enseignement de l'art de la guitare à travers le monde, tout simplement. L'une des forces d'Hopkinson Smith est, à mon sens, d'avoir su comment éclairer de l'intérieur ces musiques d'outre-temps et d'avoir su déceler en elles ce qu'elles pouvaient avoir de profondément, de réellement moderne. En effet, Hopkinson Smith est pour moi un artiste contemporain. On ne saurait l'être davantage. Il y a de cela quelques mois, j'étais en route vers Paris et je voyais au loin les tours de la Défense émerger de la brume. Et dans la voiture, nous écoutions Hopkinson Smith au Théorbe et la correspondance était parfaite. Les modernes tours conversaient avec le temps et au-delà même, ces tours sorties de terre se découpaient sur le ciel. Le soleil ou la lune qui les éclairait, ou bien comme ce jour, la brume qui s'amusait à vouloir nous les cacher. Aujourd'hui vit et joue avec hier, avec les éléments, avec l'éternité, et tout cela repose sur la terre, à une poignée de centimètres seulement des villas ou nécropoles médiévales. Le monde artistique d'aujourd'hui est certainement aussi vaste et diversifié que le fut celui du Moyen-Âge ou celui de la Renaissance. Il est simplement et radicalement différent, comme le sont nos moyens et nos modes d'existence. En approchant un peu Hopkinson Smith, j'ai pu voir à quel point il était riche des enseignements et expériences les plus diverses. Le tour particulier de son esprit fait qu'en plus, il ne sépare pas, ne hiérarchise pas ses expériences. Tout compte pour lui, tout tient sa place, remplit son office. Pour moi, la musique d'un Francesco da Milano est encore aujourd'hui une majestueuse personnification du beau. Celle de Narvaez personnifie l'infinie délicatesse. Celle de Dowland, la suprême élégance. Robert de Vizet, amour de l'art et de la science de musique. Pierre Attaignant, joie pure de jouer et de transmettre. Toutes ces musiques me sont chères, comme celle de Messiaen, Debussy, Ravel, Dutilleux, ou même, pourquoi pas, Joni Mitchell, dont je vous parle ces jours-ci dans mon autre émission. Nous nous devons de voyager à travers le temps, à travers les couleurs, à travers les styles. La musique nous permet cela. Pourquoi irions-nous choisir de rester sur un seul et même palier, ou pire encore, coincé entre deux étages ? La belle terre de Catalogne, après lui avoir offert les lumières d'Emilio Pujol, offrira à Hopkinson Smith une seconde grâce en la personne de Jordi Savall. Puisque c'est pour mener à bien la mise à flot de l'Hespérion 20 qu'Hopkinson Smith sera amené à enregistrer régulièrement, puis à se produire au concert. Grâce soit donc rendue à Jordi Savall de nous l'avoir fait connaître et aimer. Nous écoutons à présent Hopkinson Smith dans la poste d'Edmond Gautier, dit le vieux Gautier. Thank you. Davantage qu'un instrument, le luth est une constellation de cultures, de langages, de littératures en propre. La France de Jacques Gallo, de François Dufaux, l'Angleterre, d'Hollande, Morley, l'Allemagne, la Hollande, les pays de Nord-Europe, les maîtres italiens, espagnols. Le luth est une expédition au travers de toutes les cours d'Europe. Il fut peut-être la première force artistique qui sut témoigner de la réalité d'une idée européenne. Hopkinson Smith, bâtissant son répertoire, suivra donc à distance dans le temps les pérégrinations du luth en Europe, Nord et Sud, et jusqu'en Sud-Amérique. Et c'est un peu ce même tracé qu'emprunteront tous les luthistes. Et à y bien regarder, le tracé de ce qui fait l'essentiel de leur répertoire paraît suivre essentiellement les contours de notre chère Europe. Ainsi ne peut-on tenir tous ces musiciens pour des historiens de musique, et encore moins pour des passéistes. La musique de luth n'est pas figée dans le temps. Ne serait-ce, par exemple, que par cette affirmation européenne qu'elle induit et transporte. Ce rappel que l'Europe est un concert, une chorale de nations, un consort. Elle nous rappelle, par exemple, que l'Europe est une réalité ancienne, un état de fait qui a précédé même l'avènement des républiques, et que par conséquent, se prononcer contre l'Europe est un non-sens, un déni de réalité. C'est se prononcer contre le vrai. Je n'ai pas ici le sentiment de vous parler du passé. Puis-je vous permettre de vous recommander l'écoute de la musique de luth ? Notre époque est riche en luthistes de très haut vol. Aussi, vous n'aurez aucune peine à choisir parmi eux celui qui dira le mieux votre cœur, que ce soit par exemple Nigel North, Paul Odette, ou bien encore l'Écossais Ron McFarlane. Tous sont précieux, uniques, tous sont la musique. Hopkinson Smith, lui, a formé et forme encore de nombreux élèves. Parmi eux, je vous recommande Pascal Monteiller, auteur déjà de quelques beaux rangs de perles, un Bach et un Robert Devisé de toute beauté. Comme le clavecin, le luth est un instrument de haute civilisation. Il pacifie l'âme, l'ouvre à toutes les beautés, vous invite à la grandeur et va toujours solliciter le meilleur en vous. Je puis aussi vous dire d'expérience qu'il fait une antidote puissante au chagrin, à l'abattement. Je vous retrouve le mois prochain sur le 106.8. Et d'ici là, prenez le plus grand soin de vous. Au revoir. Thank you.
Thank you.